Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir. Si vous nous rejoignez en ce moment, sachez que vous êtes à l'écoute du forum du studio Kalangou, à la présentation Nefissa Adamou Sirfo. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct sur 34 radios partenaires à travers le Niger, et ce du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15. Le forum du studio Kalangou, ce rendez-vous de chaque à 18h15, est un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel sur différentes thématiques d'intérêt général. Aujourd'hui, nous parlerons du mariage des enfants. Quel rôle peut jouer l'islam pour faire reculer le mariage des enfants au Niger? Sur quels principes s'appuyer? C'est le thème du forum de ce soir. Au Niger, une fille sur quatre est mariée avant l'âge de 15 ans, deux sur trois avant l'âge de 18 ans, selon les chiffres de l'enquête démographique et de santé du Niger. Cette précocité du mariage a un impact négatif sur la santé des jeunes mères et de leurs enfants à naître, au-delà des questions de droits humains qu'elle soulève. Certaines personnes s'abritent derrière l'islam pour justifier cette pratique, pourtant abolie dans beaucoup d'autres pays musulmans. Pour nous aider donc à nous y retrouver entre idées reçues, traditions pré-islamiques et textes religieux, nous avons convié Oustaza Mustapha Ahmadou, il est le secrétaire général de l'association islamique Fawziya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Madame Salmaï Beber, spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF.
Bonjour madame.
Et l'imam Rabé, depuis le village de Jiratawa, de la région de Maradi, il sera en ligne pour expliquer sa contribution à l'évolution des mentalités dans son village. Merci à vous, chers invités, d'être venus. Chers invités, merci une fois de plus de nous avoir honorés de votre présence. Je commence par vous, Oustaz Ahmadou. Le mariage des enfants, dites-nous que disent les textes religieux sur cette pratique.
A'ouzou billahi min shaitan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, khatim al-anbiya wa imam al-mursalin. Merci madame de nous avoir donné l'occasion de dire quelque chose de très important dans la vie des musulmans. Et d'abord, je commencerai très rapidement par citer la question dans son contexte, c'est-à-dire je vais citer un verset, le verset 6 de la sourate les femmes, An-Nisa, qui a institué même le mariage entre hommes et femmes en islam. Mm. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et éprouvez les capacités des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. » Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, c'est-à-dire la maturité, remettez-leur leur bien. Donc, ça signifie quoi? C'est-à-dire, le mariage a été institué à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons vont à la guerre sainte. Donc, si ses compagnons vont à la guerre sainte, par exemple, il y a d'autres qui ne reviennent pas, alors c'est de ces enfants-là qu'on fait allusion, qu'on confie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lui-même le confie à d'autres pour adoption. Donc, ces enfants, c'est eux que ces versets concernent. Mm-hmm. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a décrit comment il a parlé de maturité. La maturité, ça reste à désirer. Le Coran n'utilise pas les chiffres, mais il nous laisse avec notre conscience en tant qu'humain, qui est différent de tout animal aussi géant soit-il sur cette terre.
Oui, justement, si à défaut de l'âge précis, le Coran insiste sur la maturité et le consentement des époux, oui. Que peut-on en déduire donc sur cette
pratique? Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il faut en tenir compte des besoins, parce que l'enfant, même étant petit, notamment la fille qui est beaucoup plus vulnérable, s'est démontrée même en islam. Mm. Elle sait ce qui peut la blesser, elle sait ce qu'elle peut faire. Et nous-mêmes, on peut savoir ce qu'elle peut faire. Imaginez ici, on dit, si vous ressentez en eux une certaine maturité, remettez-leur bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut au moins que cette fille, quand elle va chez son mari, elle sait que ça c'est pour moi et elle connaît calculé. Ça c'est le bien de mari que j'ai trouvé. Voilà ce qu'il faut dépenser, voilà ce qu'il faut faire. Au moins, elle connaît ça. Et celui qui connaît ça, c'est pas quelqu'un quand même qu'on peut reléguer à un âge de 12 à 13 ans. C'est quelqu'un quand même qui a avancé dans l'âge. Donc, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si vous ressentez en elle, remettez-leur leur bien, avant même de leur donner un mariage. Donc, voilà un peu la philosophie de l'islam par rapport à ça. Maintenant, quand on revient au niveau de la question de maturité, toujours, il y avait beaucoup de hadiths, il y avait beaucoup de versets, il y avait beaucoup des idées, des avis des ulama qui ont expliqué ces paramètres de l'âge. Quand je prends le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et il a décrit c'est quoi on entend par l'âge maturité, ou qu'est-ce qu'on entend par la gestion et efficiente de la fille ou des enfants, filles et garçons. Donc il a défini, il y a beaucoup de hadiths qu'on ne peut pas tout énumérer ici, mais quand même on veut soutirer quelques-uns. Et lui-même, parce que le plus souvent les gens, c'est avec cela qu'ils font
référence.
Oui, c'est-à-dire c'est son mariage avec Aïcha. On dit que non, le prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a épousé Aïcha alors qu'elle a 9 ans. Mais pourquoi voulez-vous nous empêcher avec vos lois, avec vos textes, avec vos décrets, nous de jouir ce que notre foi islamique nous a ordonné? Eh bien, le prophète n'a jamais dit ça. Et le prophète, quand un verset lui arrive, ou bien il fait un acte, il dit faites ce que vous m'avez vu faire, et non, faites ce que vous voulez. Non. Voilà comment on pratique ces versets qui viennent d'arriver. Voilà comment il faut faire. Mais sauf ça. Ça, on a dit, c'est l'exception. On appelle ça Khususiyat Rasul, c'est-à-dire l'exception du prophète. L'exception du prophète, il peut faire quelque chose que nous ne sommes pas tenus de le faire. Et les compagnons ont tenté de les tester pour voir est-ce qu'il va les ordonner à les faire. Et on a envoyé les pères d'Aïcha, qui est Abou Bakr Siddiq, qui est le premier khalifa du prophète, le premier compagnon du prophète, et que le prophète a qualifié d'ailleurs de véridique. Il dit, s'il y a un prophète qui vient après moi, c'est bien Abou Bakr. Et c'est Abou Bakr qui a pris sa fille, et Aïcha, pour donner au prophète en mariage. Et on a dit, bon, Abou Bakr, il faut aller demander la main de Fatima, la fille du prophète. Elle a le même âge relativement que celle de sa maman Aïcha lorsqu'elle est partie chez le prophète. On a dit à Abou Bakr d'aller demander, parce qu'on sait qu'Abou Bakr, quand il va demander quelque chose chez le prophète, il va l'avoir. Allez-y demander la main de Fatima, la fille du prophète, à son cousin qui est Ali ibn Abi Talib, en mariage. Et Abou Bakr est parti, il a dit au prophète, je suis venu chercher la main de ma fille Fatima à ton cousin Ali ibn Abi Talib. Il a dit ça 3 fois, le prophète n'a pas parlé. Troisième position, le prophète a dit elle est encore petite. Ça veut dire que
il faut attendre qu'elle soit mature.
Il ne faut pas m'imiter dans ces cas. Donc c'est une sorte d'interdiction d'elle en douceur que le prophète a fait, parce que c'est que ça c'est une exception qui est réservée à lui et à lui seul.
Oustache, peut-on considérer qu'un enfant donné en mariage à un bas âge a donné déjà son accord?
Non, c'est-à-dire, mais écoute, l'enfant, on dit qu'il se développe en imitant ses parents. Donc, tout est relatif à ce que les parents vont faire. Est-ce que l'acte que les parents vont faire pour que l'enfant imite, c'est son acte propre à lui? Il n'est pas venu de lui, il a imité. Donc, l'enfant, quand vous allez lui poser la question, il va d'abord chercher dans ce niveau, dans sa subconscience, est-ce que c'est comme ça?
Le discernement de l'enfant n'est pas celui d'un adulte.
C'est ça justement. Or, la maturité, c'est ça. Je vais vous donner un hadith que Omar ibn Khattab, le deuxième khalif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit pour couper court ce genre de débat. Il dit dans un livre, « Rabbihi sab'un wa wajjuhu sab'un » Il dit, éduque-les 7 ans. Éducation parentale, dans les foyers, dans la maison même. Ensuite, il dit, oriente-les 7 ans. orienter où l'acceptant. C'est-à-dire qu'il faut l'envoyer à l'école de dehors, l'école de village, l'école de choses. Il faut l'orienter, il faut lui dire que voilà ce qu'il faut faire pour apprendre ça, voilà ce qu'il faut faire pour être ceci. Et il dit, accompagne-les où là, 7 ans. Ça fait 21 ans, 7 fois 3, ça fait 21 ans. Mmh. Il dit, accompagne-les, c'est-à-dire la maman devrait être avec sa fille. Quand elle va au grenier pour prendre des choses, elle va avec elle pour qu'elle voit comment on fait. Quand elle lui parle de comment est la vie de maternité d'une fille, comment elle devrait se comporter, comment elle devrait s'adresser à son mari, à son papa, à sa mère, tout ça. Là. Donc, l'enfant garçon, il va avec son papa au commerce, au garage, au travail, pour qu'il lui apprend comment il va faire pour réussir dans sa vie. Donc, voilà, sa socialisation, voilà, vous avez trouvé le mot. Cet homme a dit qu'il n'y a pas de mariage sans accord de la petite fille, il n'a pas dit des garçons. Il n'y a pas de mariage sans accord, sans consentement de la fille. Voilà. Et les gens sont partis jusqu'à pousser, c'est quoi le consentement? On a rapproché les psychologues, ils ont dit que quand on regarde ses yeux larmois, quand on voit qu'elle est détendue, il y a un certain nombre d'actes, on a rapproché, pour décrire ça là. Parce que les ulamas, ils recherchent, ils vont chez les gens pour demander, les spécialistes de la chose. Mais qu'est-ce qu'on entend par consentement? Qu'est-ce qu'on entend par accord? Qu'est-ce qu'on entend par s'adonner à quelque chose pour un enfant? Donc le psychologue peut t'expliquer. On a dit que quand tu vois ses yeux commencent à larmoyer, donc ça veut dire que elle accepte malgré elle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord tacite.
Une autre question avant de venir vers vous, Madame Salmaï. Oustaz, selon vous, quelle mauvaise interprétation les gens font de ces textes que vous venez d'expliquer sur la question du mariage des enfants?
Vous savez, quand on ignore quelque chose, on peut interpréter ça de la manière qu'on veut. La religion musulmane, elle n'est pas gratuite. Les gens considèrent que tu peux rentrer dans la religion musulmane, c'est la plus facile. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de trucs que tu peux faire. Non. Il y a des principes à ne pas violer. Le prophète a dit, c'est interdit de faire telle chose. Arrête. Allah a dit que, voilà, j'ai légiféré sur tant. Il faut faire comme il faut. Maintenant, les gens, ils peuvent tourner le dos aux choses. La seule chose que je peux dire pour résumer ce que la question que vous avez, c'est que il y a un verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan. Nous ne sommes pas punis, nous ne sommes pas punissables d'un acte que nous allons poser jusqu'à le jour où on va avoir les messagers, un message qui va nous dire que voilà comment il faut le faire. Mais dès lors que nous avons l'islam, nous a donné le Coran, les hadiths, les idées des ulémas, les ceci, les cela, la science, tout. Mais on est disqualifié.
Merci. On est disqualifié. Merci, Oustaz. Madame Salmaï Bever, vous êtes spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Quelle analyse vous pouvez faire sur cette pratique et à travers ce que vient de dire Oustaz Mustapha?
Merci de nous avoir donné l'occasion de parler à vos auditeurs sur la question du mariage des enfants. Donc, comme vous savez, l'UNICEF a pour rôle de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant. Donc, qui dit mariage d'enfant dit violation des droits de l'enfant, des droits de la petite fille. Donc, je suis très rassurée par ce que Oustaz a dit, du moment où beaucoup de parents, des fois, ils mettent en avant la question religieuse pour continuer la pratique. Mais je pense que la pratique a d'autres racines, elles sont traditionnelles, parce que selon les ethnies, les études qui ont été faites, chaque ethnie a un âge auquel il pense qu'il faut marier son enfant. Et ce qui fait ça, je pense que malgré l'évolution, c'est le manque d'information. Le manque d'information des parents, de savoir les conséquences. Et donc c'est ça qui maintient la pratique, d'après les études qui sont sorties. Si on regarde de près, dans les pays où le taux d'alphabétisation est élevé, la pratique a reculé. Et comme vous savez, la situation du Niger est telle que la plupart des parents sont analphabètes. Donc, comme il a dit, un marabout analphabète aussi peut sortir et dire, voilà, Donc, l'islam, c'est l'islam qui veut qu'on marie les filles. Parce qu'il y en a qui vous disent, ouais, il paraît que dès qu'elle a ses règles, le deuxième mois, il faut qu'elle soit chez un mari. Mm-hmm. Alors maintenant, on sait que les filles, elles sont précoces. À 11 ans, elles ont les premières règles. Mm-hmm. Donc, comment vous voyez une femme mariée à 12 ans ou à 11 ans et demi chez un mari, comme il a dit? Donc, tout l'aspect de maturité n'y est pas, le consentement n'y est pas, parce qu'elle ne sait pas du tout à quoi s'en tenir. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi l'UNICEF travaille en collaboration avec tous les acteurs pour qu'ils aillent dans les communautés et pouvoir sensibiliser les parents.
On le sait, l'UNICEF est engagé dans ce programme auquel le Niger a adhéré pour faire reculer le mariage des enfants. Ce programme prévoit également des sanctions et des actions au niveau communautaire, comme vous venez de le dire. Décrivez-nous ce programme brièvement.
Oui, donc comme j'ai eu à le dire, en fait, ce qu'on appelle le programme, le global programme pour mettre fin au mariage des enfants, est un programme que UNICEF et UNFPA au niveau mondial mettent en œuvre suite au constat. Donc, quand il y a eu le bilan en 2015 de la mise en œuvre des OMD, on a constaté qu'il y a eu pas mal de progrès. Mais par contre, il y a des volets, notamment tout ce qui concerne les violences faites aux femmes et aux filles, ou qui sapent le progrès mondial, donc dont il faut s'attaquer. Mmh. Et c'est pourquoi dans les ODD, les nouveaux objectifs de développement durable, une place a été dédiée, donc avec des indicateurs clés sur la question des pratiques néfastes qui nuisent aux droits des femmes et des filles, comme le mariage des enfants et l'excision. Mmh. Donc, suite à ça, UNICEF et UNFPA ont été mandatés au niveau des Nations Unies pour travailler avec les pays comme le Niger, qui ont des taux élevés de mariage des enfants. Mm-hmm. Donc, des gouvernements néerlandais, anglais, l'Union européenne, le Canada, ils se sont mobilisés et ont mis des ressources à la disposition de nos agences. Donc, le programme global est financé à travers ce consortium-là. Et le Niger en bénéficie. L'objectif, les résultats du programme global sont à 5 niveaux. On doit faire en sorte que les filles ont les capacités renforcées pour elles-mêmes comprendre ce que c'est que le mariage et qu'elles arrivent à exprimer son point de vue quand les parents décident de la marier. Deux, on doit s'assurer que les communautés sont informées, quelles sont les conséquences, quels sont les droits des enfants, etc., pour qu'elles puissent elles-mêmes faire leur propre autodiagnostic et dire « Ok, on va arrêter de faire telle pratique parce qu'elle constitue une violation des droits de l'enfant. » Il faut que les services soient prêts à accueillir les filles, à accueillir leurs parents. Donc c'est les services de la justice. Si quelque chose arrive à sa fille, notamment quelqu'un a engrossé la fille, il faut que les services de justice soient accessibles à ces familles. Donc que les services soient amis des adolescentes. Voilà. Donc que ça soit la justice, que les filles ont accès à l'état civil, parce que c'est ça qui montre qu'on n'a pas 18 ans pour se marier. Et puis, quatrième intervention qu'on fait, c'est faire en sorte que la législation et des politiques sont mises en œuvre par les pays pour mettre fin au mariage des enfants. Donc là, le Niger vient de faire son plan stratégique 2018-2021. Donc c'est une très bonne chose et c'est dans le cadre de ce programme global. Et enfin, cinquième axe, c'est qu'on puisse documenter, avoir des données qui montre que les interventions qu'on fait changent quelque chose.
Oui, ce global programme, dans quelle région il est mis en œuvre?
Bon, normalement, comme j'ai dit, il y a 5 axes d'intervention. Sur les 5 axes d'intervention, vous avez les 4 qui sont au niveau national. Mm-hmm. Le seul qui est mis dans les régions où il y a le taux de mariage le plus élevé, c'est l'axe concernant le travail au niveau communautaire. Dans la région de Maradi, dans la région de Zender et dans la région de Tawa. Mm. C'est les 3 régions qui ont les forts taux de mariage des enfants. Mm. Et c'est pourquoi donc, le programme global au niveau communautaire est mis en œuvre dans ces localités où donc, le rabbin avec qui vous voulez parler fait partie des acteurs qui amènent le changement dans leur communauté pour que les parents puissent prendre conscience du danger du mariage des enfants. Et là, voilà.
Merci à vous. Oustaz Mustapha, je reviens vers vous. Le consentement des enfants pour le mariage, il est important dans l'islam, comme vous l'avez expliqué. Donc, dites-nous, Quelles sont les voies de recours possibles en islam pour annuler un mariage ou bien l'empêcher catégoriquement, un mariage qui est fait sans le consentement des enfants, de la jeune fille?
Oui, y a trois conditions. D'abord, ce qui peut annuler ou ce qui peut conduire à annuler par les autorités compétentes, à savoir donc les érudits qui sont imbibés donc du règlement islamique, de la législation islamique par rapport à la gestion de la vie humaine, les juges que nous connaissons, à qui on fait foi, parce que Allah nous a dit que face à l'Ouah, les zikrun kuntum la talmoun, demandez-en ce que vous ne savez pas chez ceux qui savent. Donc, il y a trois aspects. D'abord, si l'enfant n'attend pas la maturité, ou bien si on lui fait les choses malgré lui, c'est-à-dire on le force. Là, si on a constaté qu'effectivement, ou l'enfant lui-même a dit qu'on m'a forcé ou bien on m'a obligé contre mon propre gré, donc on annule ce mariage. Le deuxième aspect encore, c'est que les enfants, en islam, normalement, on ne parle même pas de mariage quand il s'agit d'un enfant. On ne parle pas de mariage quand il s'agit d'un enfant. On parle de mariage quand il s'agit de quelqu'un de matur. Donc l'islam, dans sa pudeur, ne parle pas de mariage et amène le mot enfant. Ça n'existe même pas. Mais si ça se produit, donc on fait le constat de ces trois aspects qu'il faut
pour pouvoir
annuler ça. Donc le manque de consentement, l'insuffisance de l'âge, c'est-à-dire les petits âges, les bas âges de l'enfant, n'est-ce pas? Et maintenant, un certain nombre de choses telles que ce droit, telles que la dot et autres, il faut qu'on s'assure qu'elle est là et que l'enfant, tout est fait avec la présence des témoins, les représentants de ses parents, les parents de cet enfant-là. Donc maintenant, voilà un peu les choses. Ce n'est même pas les parents. En islam, ce n'est pas les parents qui choisissent. Mais, et le délègue quelqu'un, on dit al-wali. Le Coran a dit qu'il faut un représentant des parents. Donc la pudeur islamique ne permet même pas de choses. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui conduisent à dissoudre un mariage ou à divorcer. Même s'il a été entrepris ou empêché ça. Donc en islam, c'est permis. C'est permis si les conditions sont réunies. Et l'islam ne parle même pas moi je n'ai jamais vu. L'islam ne parle même pas de mariage et amener le mot enfant à bas âge. Non.
Oustaz, revenons un peu sur la question du mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, car on le sait, beaucoup de parents se justifient, pour donner leurs enfants sur cette union. Expliquez-nous davantage cette union du prophète.
Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que le khattab alakum min al-nisa'i masala masana wa sulasa wa ruba'a wa un khutum Allah ta'ala lu fawahida. Le prophète, c'est à lui seul que Allah a donné le droit de dépasser les quatre là que je viens de citer, parce que Allah a dit que il vous est permis de prendre comme épouse deux ou trois ou quatre, et si vous sentez que vous ne pouvez pas faire l'équité entre elles, eh bien contentez-vous d'une seule. Eh bien, le prophète, lui, il a pris au-delà de cela. Et toutes les femmes qu'il a prises, ce sont des femmes majeures, des vieilles femmes. D'autres, ce sont même des veuves, n'est-ce pas? Celle Aïcha est la plus jeune fille que le prophète a épousée. Alors, pour parler de cela, effectivement, les gens vont beaucoup de débats autour de ça. Ce n'est même pas à 9 ans, c'est à 6 ans qu'on a attaché le mariage d'Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à 6 ans. Non, on l'a amené chez elle en tant que femme à 9 ans. Mais ça, tout celui qui connaît le langage de l'islam, on appelle ça Khususiyat Rasoul. C'est-à-dire, c'est l'exception du prophète. Ça, c'est une exception réservée exclusivement au prophète, pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, imaginez le Coran, hein, le nombre de versets. Il y a presque plus de 99 000 quelque chose de versets qui sont dans les saints Coran. Maintenant, dans tous ces versets-là, chacun, quand il vient, le prophète enseigne les fidèles pourquoi c'est venu et comment il faut faire ça. Et il dit aux gens d'imiter moi. Faites ça, voilà comment on fait. Voilà. Sauf son mariage avec Aïcha. Il n'a jamais dit de faire comme lui. Ça, c'est un premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, n'est-ce pas, par rapport à ce mariage-là, c'est que Aïcha était dans toutes les prédispositions d'avoir des enfants. Elle est dans son âge vraiment tendre, n'est-ce pas? Mais parmi toutes les femmes du professeur, c'est avec Aïcha qu'il n'a pas eu d'enfants. Comment vous pouvez expliquer ça? Même avec des veuves, des vieilles femmes, il a eu des enfants, sauf avec Aïcha. Donc, ça prouve que c'est une exception du professeur, et ce n'est pas donné à quelqu'un d'autre. Okay. Et je vous ai parlé premièrement que les compagnons ont voulu tester le prophète pour savoir est-ce que c'est faisable pour eux. Lorsqu'ils ont envoyé Abou Bakr Siddiq pour aller demander la main de Fatima aux choses. Okay. Donc voilà un peu ce que les gens devraient avoir dans la tête, c'est que l'exception du prophète, on ne discute pas, on ne rentre pas là-dedans.
Oustaz, une autre question. À l'inverse, le Coran responsabilise les parents en matière d'éducation et de santé de leurs enfants qu'ils doivent protéger. Et donc, peut-on aussi invoquer ce principe pour rappeler leur devoir aux parents pressés de marier leurs enfants, leurs toutes jeunes filles? Question de l'éducation.
Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit... يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس ذوي الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد يعملون ما يمرون ولا يعصون الله ما أمره ويعملون ما يمرون. C'est-à-dire dans ce verset, Allah a dit que oh vous qui ont crié, protégez-vous et protégez vos progénitures du feu humble qui dont les combustibles sont constitués des anges et des montagnes, des roches. Donc, en quoi faisant, c'est-à-dire en tenant l'éducation de vos enfants. Celui qui tient correctement l'éducation de ses enfants, c'est comme quelqu'un qui se bat pour ne pas tomber dans les faits. Donc, vous voyez, ça c'est un. Deuxièmement, la question de l'éducation, éducation, scolarisation et tout. L'islam a posé ça en termes de droit à l'enfant et devoir aux parents de lui offrir. Jusqu'à un âge où je vous ai dit les hadiths de Omar ibn Khattab, là où il disait que éduquez-les ou là, Satan, ainsi de suite. Okay. Donc, ça, ce sont des trucs qui montrent que la responsabilisation. Et je finirai par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Kafa bil mar'u ithman an yakuta ma yahil. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il suffit qu'un péché inestimable à quelqu'un, à un parent, de faillir à la mission de l'éducation de son enfant, de la vie qu'on a mis à sa disposition. Quand il faille un tout petit peu là, tu lui manques l'éducation, eh bien il ne comprend même pas ton éducation, eh bien c'est un péché énorme qu'il ne faut pas négliger.
Merci à vous, Madame Salmaï. Dites-nous quel rôle joue l'imam de la communauté et comment vous l'associez dans votre programme, le Global Programme.
Ok, merci. Donc, comme vous savez, l'UNICEF travaille avec le gouvernement à travers un programme de coopération qu'on signe tous les 5 ans. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, on peut travailler avec les structures du gouvernement comme avec la société civile, donc y compris les associations religieuses ou les chefs traditionnels. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ce global programme, UNICEF a mis en œuvre, a signé un protocole d'accord avec l'ONG Fawzia. Et ils vont dans les communautés pour faire de la sensibilisation. Ils sensibilisent surtout les imams des régions dans lesquelles on met en œuvre les approches communautaires pour que ceux-là soient armés, parce que de toute façon, l'islam est une œuvre où on apprend tous les jours. Donc il n'y a personne qui détient le savoir absolu. Donc on apprend des autres, les uns des autres. Nous avons aussi un protocole d'accord avec l'association des chefs traditionnels qui font aussi tout le travail de proximité avec les communautés. Comme le, il y a un bon exemple là, du chef de canton de Léla, qui a pris une circulaire pour interdire le mariage dans les 240 villages de sa communauté, ce qui est une très bonne chose. Donc il y a pas mal de chefs traditionnels qui ont des initiatives à gauche et à droite que nous saluons et espérons que ça va donner les résultats.
Oui.
Nous travaillons avec les structures de l'État qui mettent en œuvre ce qu'on appelle les approches communautaires de la protection de l'enfant, où là on met en place un facilitateur communautaire qui peut prendre une année à une année et demie, travailler avec les communautés au quotidien pour leur renforcer leur capacité, qu'eux-mêmes ils fassent le diagnostic de ce qu'ils font, qui est une violation aux droits de l'enfant, et décident à travers une déclaration publique d'abandonner.
Oui, Madame Salmeï, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de mariages d'enfants évités grâce à l'intervention des imams? Avez-vous des exemples?
L'exemple qu'on a du chef de village de Iléla, où j'ai lu là dans les documents, dans les rapports, où il a eu à intervenir, c'est une fille de 13 ans ou 14 ans qui a été mariée, et que c'est le frère de la fille même qui était contre. Et il a fait toutes les démarches pour dissuader ses parents de ne pas le faire, mais il ne voulait pas le faire. Donc finalement, ils sont remontés jusqu'au chef qui a intervenu. Et maintenant, actuellement, la fille est au niveau du collège.
Donc, si on peut dire l'impact, il est positif, l'impact de vos actions et autres à la date d'aujourd'hui.
Oui, je pense que l'approche communautaire est une approche excessivement chère parce que, comme j'ai dit, on met quelqu'un dans le village. Actuellement, nous sommes dans presque un milieu de villages entre la région de Maradi, Zender et Tawa. Et beaucoup de filles, grâce à ces interventions, ont rejoint l'école. Beaucoup de mariages ont été annulés. Donc, l'exemple que je vous ai donné de Iléla, il y avait tant d'autres que moi-même, je suis allée dans certains villages où on a vu donc des filles qui ont eu la chance de continuer et de finir même le collège. Donc, on peut dire qu'il y a un impact certain, mais on attend les chiffres. On espère que la prochaine enquête globale va montrer que le pourcentage des pratiques au Niger va baisser.
Merci à vous. Je vous propose à présent d'écouter l'imam Rabé depuis la localité de Jiratawa dans la région de Maradi. Il nous explique sa contribution à l'évolution des mentalités dans son village.
Ko an yi shi gaskiya ba a cin nasara kuma an aka yi shi ma lokacin za a ga nan shi ke sa yaran.
Ce que nous avons appris à la formation va avec la religion, puisque le mariage forcé n'a aucun fondement. Même s'il est fait, il n'y a pas d'avantage. C'est ce qui fait fuguer les jeunes filles, puisque déjà elles n'aiment pas le garçon qu'on lui a choisi. Elle n'a pas l'âge et puis elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. La conséquence, c'est qu'on voit des jeunes femmes divorcées partout en train d'errer. Ça n'a pas de sens. Aussi, c'est une violation de la religion. Certaines personnes voyaient en nous des gens qui soutiennent l'UNICEF, alors que ce qu'on dit est vrai. Dans nos prêches, nous leur disons à travers les versets coraniques comment on doit faire, parce qu'une femme qui n'est pas éduquée, si elle se marie, elle ne pourra pas bien gérer le foyer. Et puis éduquer une fille, selon le prophète, c'est l'équivalent d'éduquer 100 garçons, parce que c'est elle qui éduque les enfants à la maison, ce qui permet à ses enfants d'évoluer avec de bons comportements. Nous informons les habitants d'un quartier donné qu'il y aura prêche tel jour à tel moment. C'est ce qui nous permet de rassembler des hommes et des femmes et leur lancer des appels pour qu'ils abandonnent cette pratique de mariage forcé et laisser les enfants aller à l'école parce que ça les arrange beaucoup, la population aussi. Présentement, dans notre CSI, c'est uniquement les femmes qui font le travail. Si on ne les avait pas laissées étudier, ce vide allait toujours rester intact. C'est pourquoi nous soutenons à ce qu'on laisse les filles étudier et ne pas les marier précocement ou forcément. Puisqu'une fille mariée avant l'âge ne sait même pas faire la cuisine, à plus forte raison s'occuper du mari. Et puis, sans instruction, donc c'est toujours un recul, alors qu'on a toujours besoin d'avancer. Pour que nos messages passent, nous nous intéressons aux enfants de 10 ans à plus. C'est eux qui peuvent comprendre facilement. Je peux dire que la solution a été trouvée parce que de nos jours, les parents laissent leurs enfants poursuivre leurs études à l'école. Il y a beaucoup de nos enfants qui ont échoué aux examens de fin d'année, mais nous les maintenons toujours dans le système éducatif ou dans le privé parce que nous tenons à leur instruction avant d'atteindre l'âge du mariage. Les droits des jeunes doivent doivent être respectés, car si les droits d'un enfant sont piétinés, il peut se rebeller et même quitter la maison pour aller en aventure. Alors que si ses droits sont respectés, il va devenir utile à la société.
Je reviens dans ce studio, Oustaz. Comment contribuez-vous à protéger les filles des risques de grossesse, de mariage précoce et des risques de sexualité?
C'est leur donner suffisamment de l'éducation. Parce que oui. C'est leur donner suffisamment de l'éducation sur ce qui leur revient de droit et ce qu'ils sont en mesure de réclamer auprès de leurs parents. Mm-hmm. Donc, quand tu apprends quelque chose qui te revient de droit, eh bien, tu peux le réclamer chez n'importe qui. Je vais vous donner un exemple du professeur là, le Salam. Une fois, il a voulu demander la faveur au détriment des droits de l'enfant, de la faveur à un enfant qui s'est trouvé à son lieu où il s'assied avec ses amis, lui, le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y avait un enfant sur sa droite, on a amené quelque chose à boire, le prophète a bu. Et la législation islamique dit que si tu bois le plus méritant, le plus nécessité qui devrait te suivre, c'est celui qui est sur ta droite. Il a regardé, ici c'est l'enfant, un petit enfant qui est sur sa droite, et ici ce sont des barbus, ce sont des veillards. Il a demandé à l'enfant là, c'est ton droit, mais permets-tu que je donne à tes parents? Il dit non, je ne permets pas, je ne lâcherai à aucun prix au monde mon droit à quelqu'un. Et le prophète était obligé de lui donner. Donc ça veut dire que quand tu connais tes droits là, tu peux les réclamer. Et l'enfant, quand il réclame, il faut le lui donner. Donc, c'est en éduquant les jeunes filles, à leur donner des enseignements équivalents à leur situation, à leur vie, à ce qu'elles devraient être, à ce qui les attendent quand elles seront grandes, et qu'elles devraient se protéger, parce que le prophète a dit, il faut protéger donc les vitrines, ou bien si vous voulez, les bouteilles, quoi. Parce qu'une fille, c'est comme une quincaillerie, quand elle tombe là, elle va se casser.
Merci à vous, Oustaz. Rapidement, pour finir, que faire donc pour venir à bout de cette pratique afin de faire évoluer la société davantage?
Vraiment, dès lors que nous avons détecté que c'est l'ignorance, les gens ignorent les droits et devoirs, notamment celles de l'islam, y compris les parents avec leurs enfants, eh bien, il faut aller dans les foyers. Il faut amener la documentation nécessaire, il faut amener les savoirs nécessaires pour les sortir de ce bourbier de l'ignorance qui ne fait que perdurer, alors qu'il y a des moyens de l'effacer. Il faut amener la documentation, la science, il faut mettre à contribution tous les intellectuels du domaine, n'est-ce pas? Les médecins, les ulémas, les psychologues, les pédagogues, tout le monde, les sociologues, pour qu'on fasse vraiment la situation à tous les niveaux.
Merci à vous.
Voilà.
Madame Salmeï, je termine avec vous. Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes à suivre pour venir à bout du mariage des enfants ici au Niger? Rapidement.
Ok, merci. Donc, je pense que le Niger est sur la bonne voie. Du moment où, avant, vous savez, c'était une question taboue, et que maintenant, même le président de la République, dans son discours officiel, il en parle. Parce que si aujourd'hui le Niger est toujours classé à l'indice de développement humain en dernière position, c'est parce que la situation sociale n'est pas bonne. Les indicateurs sociaux ne sont pas bons en matière d'éducation, en matière d'espérance de vie. Et le mariage des enfants contribue à renforcer ça. Donc je pense que si on veut renverser la tendance et améliorer la situation de la fille et des femmes au Niger, il faut aller de l'avant. Il y a un plan stratégique qui a été élaboré. L'UNICEF va poursuivre sa mobilisation des ressources pour aider le gouvernement à mettre en œuvre ce plan stratégique. Et on espère que dans les années à venir, ça serait qu'un souvenir lointain.
Merci à vous, Madame Salmaï Bébert. Merci également au Oustaz Mustapha Ahmadou. Merci également à l'imam Rabé de Jiratawa. Donc, en conclusion, selon ce que nous venons d'entendre, retenons que l'islam, en aucun cas, en aucun moment, n'encourage le mariage forcé ou le mariage des enfants. Et c'est ici que prend fin le forum de ce soir. Nous étions avec Madame Salmaï Bébert, elle est spécialiste des questions de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Oustaz Mustapha Ahmadou, secrétaire général de l'association islamique Fawziya, et l'imam Rabé depuis la localité de Jiratawa de la région de Maradi. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo, à la technique Seni Isaka. À très bientôt pour une autre thématique sur le studio Kalangu. Au revoir.